Constante du monde. Diamono, tous les mercredis de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
La simulation francophone des Nations Unies de l'Université Laval est fière d'être retour cette année pour sa 12e édition du 5 au 8 mars 2026. La CIFNUL réunit chaque année des personnes étudiantes de divers horizons pour s'initier au monde de la politique et de la diplomatie internationale. Cette année, les personnes participantes auront l'occasion d'élaborer des travaux portant sur la liberté de presse. Pour trouver le formulaire d'inscription et pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram en inscrivant SIFNUUL. Les inscriptions se terminent le 31 décembre. Faites vite!
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier et commandite, accompagnement droit étudiant, les retraits de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier à commercial allier.ulaval.ca.
Cherche une salle professionnelle abordable pour produire un événement en plein cœur du centre-ville de Québec? Un atelier privé ou un espace commun pour travailler sur ton entreprise culturelle? Que ce soit pour la musique, le montage vidéo, la photo, la couture, le tatou ou tout autre projet créatif, le centre est là pour toi. Pour en savoir plus, appelle au 418-261-6969 ou écris-nous sur Instagram et Facebook en cherchant le centre Hub Créatif. Le Centre, ton lieu de création en plein centre de Québec.
Il est 4 heures.
Bon jeudi à tous, vous êtes à l'écoute de Chérie, l'année est finie, notre émission récapitulative de fin d'année ici à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui à l'émission, c'est pas un recap de fin d'année, la première entrevue, mais c'est un événement qui a lieu pendant le temps des fêtes et c'est le Turbo Fest qui est de retour pour une 18e édition cette année. On va parler avec Véronique Provencher, membre fondatrice de Turbo 48 et du Turbo Fest. Donc le Turbo Fest, c'est le plus grand festival de jonglerie au Canada, puis ça a lieu à Québec. Fait qu'on va parler de ça. Et par la suite, on va parler théâtre, on va parler de nos coups de cœur théâtral avec Margot Ganassa. Et par la suite, à 17h, Alex Tremblay-Lamarche va venir nous parler littérature de ses coups de cœur littéraires de l'année 2025. Au travers de l'émission d'aujourd'hui, hier, j'ai eu beaucoup de jazzettes, donc j'ai pas eu le temps de faire jouer tant de musique que ça, même si on vous a quand même parlé de musique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quand même des coups de cœur musicaux qui m'ont accompagné pendant 2025, que ce soit des albums ou des singles d'albums à venir en 2026. Et là, j'ai envie de vous faire écouter, qu'on écoute ensemble, la chanson « Tout rattrapé » de Mal-aimé Soleil. On écoute ça ensemble ici à Chérie. L'année est finie!
Faire fitter mes mots sur un papier, faire fitter ma vie en société, perdre le contrôle, tout rattrapé, perdre le contrôle, tout rattrapé, tomber en amour sur un banc de parc, me faire briser le cœur sur le tarmac, perdre le contrôle, tout rattrapé, perdre le contrôle, tout rattrapé. Sur un horaire, me brûler les yeux sur mon cellulaire, perdre le contrôle, tout rattraper, perdre le contrôle, tout rattraper, travailler pour faire un peu d'argent, flouber toute ma paix, c'est un mal de dents, perdre le contrôle, tout rattraper, perdre le contrôle, tout rattraper. Mon été dans un frisson.
chanson. Mon hiver en bobette sur le balcon. Perdre le contrôle, tout rattraper. Perdre le contrôle, tout rattraper. Courir pour maigrir de la bédaine. Rester dans mon lit, j'ai trop la flemme. Perdre le contrôle, tout rattraper. Perdre le contrôle, tout rattraper. Clairement tomber par terre sur le tarmac. Perdre le contrôle, laisser aller. Perdre le contrôle, laisser aller.
C'était Tout rattrapé de Mal-aimé Soleil. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, l'année est finie. Tout rattrapé, c'est un single du projet Mal-aimé Soleil qui est sorti le 3 octobre 2025. Pour vrai, j'aime tellement cette chanson-là. Je trouve que les paroles, la musicalité, on sent vraiment dans l'univers de Mal-aimé Soleil. J'ai adoré leur premier album qui s'appelle Tempête. C'est un chef-d'œuvre et j'ai vraiment hâte de voir le reste, de voir qu'est-ce qui a à venir pour ce projet en 2026. Une chose est sûre, c'est que Mal-aimé Soleil va être en lancement à Québec au Pantoum et là il y a deux dates, le 3 avril, c'est complet, mais il y a une supplémentaire le 4 avril au Pantoum. Fait que voilà, si c'est peut-être une idée de cadeau ou de gâterie à se faire à soi-même, ça va être un vraiment bon show. Sinon, la prochaine artiste que j'ai envie de vous parler, la prochaine chanson plus précisément, c'est la chanson Tough Crowd de Sorail en collaboration avec Virginie B. Sorail a sorti un nouvel album qui s'appelle Millennium Star Diamond et c'est paru le 7 novembre 2025. Et pour vrai, moi, j'ai adoré cet album-là. J'ai trouvé aussi que chaque fois qu'il y avait un nouveau single qui sortait en prévision de la sortie de l'album, j'étais tout le temps agréablement surprise. Puis je trouve vraiment que Sorail est tombé sur son X avec cet album-là. Je trouve, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir en show. Et justement, Sorail va être en lancement aussi à Québec, au Pantoum. Mais là, c'est le 23 janvier. Et c'est une collaboration avec le collectif Pluriel pour une soirée vraiment inoubliable. Il va avoir deux artistes drag, Sacha Bellenfer et Will Charmer. Et il va aussi avoir DJ Cici The Red pour terminer la soirée dansante. Fait que voilà. Et ça va vraiment danser cette soirée-là. Écoutez la chanson Tough Crowd de Sorail puis vous allez vouloir envie de bouger. Fait qu'on écoute ça ensemble. Tough Crowd de Sorail en collaboration avec Virginie B.
Sun. Tough Crowd.
C'était Tough Crowd de Soraï. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, l'année est finie. Et m'a rejoint en studio Véronique Provencher, membre fondatrice de Turbo 418 et du Turbo Fest. Salut, salut!
Bonjour!
Oh, t'as peur? Oh.
Bonjour, bonjour!
Yes! C'est comme je disais à Véronique avant de rentrer en onde, c'est comme la tradition là, que Véronique vienne dans la dernière semaine de Chérie, j'arrive juste avant les fêtes pour parler du fameux Turbo Fest qui célèbre sa 18e édition cette année.
Absolument. Mon enfant est devenu adulte.
Oh oui, c'est vrai. L'enfant est enfin majeur, du moins au Canada. Du moins au Canada. Le Turbo Fest est le plus grand festival de jonglerie au Canada. C'est quand même pas rien.
Oui, et puis c'est un événement qui est super populaire. On accueille en moyenne 300 jongleurs qui viennent de partout en Amérique du Nord pour revenir donc à l'école de cirque et cette année spécialement à Manivelle pour venir échanger, faire des tournois, prendre des ateliers de formation et c'est ça. Donc ça va être un événement à ne pas manquer.
Puis c'est un événement pas, on s'entend, pas seulement pour les jongleurs. Les jongleurs, c'est vraiment un événement accessible à tous pour venir découvrir cet art et ce sport également.
Exactement. Donc, on va présenter le Turbo Show le samedi 3 janvier à la salle Sylvain Lelièvre. Vous pouvez prendre vos billets sur le site de turbo418.com. Donc, oui, c'est ça, c'est en tant qu'art et en tant que sport. Hein. Turbo 418, on veut... notre mission, c'est de faire la promotion de la jonglerie non seulement comme art, mais également pour l'aspect sportif. Donc, il y a des compétitions de jonglerie, des jeux, des tournois de volley-quilles.
Le fameux tournoi de volley-quilles qui revient, qui est comme un incontournable, là, au même niveau que le Turbo Show. Là.
Oui, c'est ça. Et donc, les licornes rancunières vont encore une fois compétitionner pour le titre de volley-quilleur numéro 1.
Pis ça, c'est les numéros depuis quand même plusieurs années, là, chers auditeurs, auditrices.
Oh,
là,
ouais.
C'est les grands champions, championnes. Et dans la programmation, il y a toujours des invités spéciales que vous invitez justement au Turbo Fest. Est-ce que tu peux nous parler de ceux-ci? Puis comment est-ce que ceux-ci se démarquent dans l'univers de la jonglerie?
Absolument. On a fait venir au fil des années les jongleurs les plus courus, les vedettes de notre art. Et cette année, notre invité spécial s'appelle Joe Fisher. C'est un Australien. Il est né en Tasmanie et c'est un enfant prodige de la jonglerie. Donc, il a commencé à jongler à 6 ans, puis à 12 ans, il faisait Australia Got Talent. Là, vous voyez
oh,
le
ouais.
genre.
Oh, ouais, okay.
Puis c'est vraiment un virtuose, un artiste qui a une belle musicalité, puis en même temps, une technique à couper le souffle. Donc, on va pouvoir le voir dans le Turbo Show, entre autres. Puis il va offrir un atelier de manipulation là, dimanche à 11h, où est-ce que les festivaliers vont pouvoir apprendre
de ce grand Manitou de la jonglerie.
Oui, absolument. Donc, Joe Fisher, c'est notre grand invité spécial, mais on a également Jorge Petit, qui est un jongleur chilien, qui a, entre autres, performé sur Cristal du Cirque du Soleil. Il va nous présenter un numéro de balle rebond. Donc, c'est un super danseur et un technicien incroyable.
Peux-tu nous parler un peu de la balle rebond?
Donc, vous savez, c'est comme une balle rebondissante, okay. Mais version boostée. Donc, en silicone, là, super bien, qu'on prend bien en main. Et puis, le but, c'est, admettons, d'en faire 5, d'en faire 7, d'en faire 9 en même temps. Donc, en jonglant un nombre d'objets, puis de toutes les formes. Donc, Jorge va nous présenter un numéro de balle rebond.
Wow!
Puis sur Cristal, ben, il faisait balle rebond et patin.
Les deux ensemble?
Oui.
Wow, OK. C'est très impressionnant quand même.
Les maîtres de cérémonie du spectacle de samedi soir seront les Catapultés. C'est un groupe qui a été formé ici à Québec à l'École de cirque, mais qui tourne à l'international, entre autres avec Flip Fabric sur le spectacle Seasons.
Ouais.
Alors, ils sont là, puis ils ont négocié de rester un petit peu plus longtemps pour présenter, pour introduire notre spectacle.
Ben, une très belle programmation qui s'en vient pour le Turbo Show. Le Turbo Show qui va être
C'est du 2 au 5 ouais. janvier. Donc, 2, 3, 4 à l'École de cirque de Québec. Le 3, le soir, c'est la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. Et le 5, on ajoute une journée. Vu que c'est un lundi, on va à Manivelle, l'espace donc de machines de cirque, donc pour une journée de jeux et de découverte, là.
C'est ça, il n'y avait comme pas encore de détails sur cette programmation-là du 5. Là. C'est comme un peu rajouté en surprise là, pour les festivaliers du TurboFest.
Ben oui, puis pour que les gens puissent profiter pleinement de leur venue, parce qu'on s'entend que les gens viennent de loin pour venir au festival.
C'est ça, j'ai même vu que vous avez fait un groupe de covoiturage aussi. S'il y a des gens de l'extérieur qui, justement, qui viennent pour le TurboFest.
On a toujours des délégations qui viennent de Halifax, de Rochester, de New York, donc d'un peu partout, d'Ontario également, de Guelph. Il y a une bonne communauté de jongleurs-là, puis ils s'en viennent toutes, donc à Québec pour l'événement.
Et là, quand je regardais l'horaire 2026, le jour 1, c'est le vendredi 2 janvier. Et là, je regardais sur la programmation, bon, ouverture, à 22h30, c'est le Open Stage, puis à 23h, c'est Renegade
Show.
Renegade Show. Mais là, quand je faisais mes petites recherches sur c'est quoi un Renegade Show, ben ce que je pouvais voir, c'était que c'était un peu comme une scène ouverte de jonglerie.
Oui, mais
c'est quoi la différence?
OK, une scène ouverte, c'est pour présenter un numéro. Le Renegade Show, c'est un spectacle à 23 heures, les enfants sont couchés.
C'est ça, là
où est-ce que ça devient un petit peu plus crunchy. Et puis, c'est sur de la musique live, puis c'est pour des performances d'une minute, 30 secondes, deux minutes, que ce soit pour montrer un truc technique ou pour faire quelque chose de un peu plus crunchy. Alors, vous pouvez venir donc à l'École de cirque de Québec, c'est le vendredi soir. Il va y avoir deux spectacles donc pour cette soirée d'ouverture du festival. Alors ça risque d'être haut en couleur.
Ouais, puis comment tu l'as prononcé, j'ai bien
Renegade.
Renegade, c'est vraiment
c'est
comme
Renegade.
Renegade, sinon ben c'est vraiment comme dans la tradition de la jonglerie là.
Absolument. Oui, c'est à chaque festival de jonglerie, il y a cet événement qui est un peu en marge des spectacles officiels où est-ce que tout le monde peut présenter. Puis c'est comme un gong show, là, tu sais, okay, où est-ce qu'on peut se faire sortir si on est plate.
Ah, ouais, hein?
Ouais,
OK.
Ouais,
il y a comme un maître
si
de cérémonie.
Si on est bon, on reçoit une bière, tu sais, ou un jus de fruits.
Ouais, c'est ça, tout dépendant
de vos préférences.
De nos préférences. OK, fait que c'est vraiment comme. OK, je visualise bien là, que c'est. En plus, avec la musique live et tout ça, ça fait partie aussi de la tradition qu'il y a toujours un band live.
En tout cas, au TurboFest, on a toujours eu un band live. C'est des musiciens qui sont issus, entre autres, de la Ligue d'improvisation musicale, qui reviennent année après année, puis qui viennent nous rythmer notre Renegade Show.
Oui, puis est-ce que ça se fait un peu sous forme de, justement, d'improvisation musicale également?
Oui!
Ah, OK, fait que les deux, il y a comme cette chimie-là.
Une co-création artistique impromptue. Alors, c'est vraiment surprenant. Puis les artistes se laissent influencer par les musiciens. Puis les musiciens par qu'est-ce qu'ils voient sur scène, qu'est-ce qui arrive.
Wow, je visualise très bien. Ça doit être un méchant beau party. En continuant, sinon, le 3 janvier, le jour 2, on a la fameuse compétition de volley kick, on en a parlé un peu plus tôt. On a les compétitions et le turbo show aussi. Puis la soirée se finit tard, en plus, là. C'est le fun, ça. C'est...
Ah ouais, ben là, c'est ça, hein. On n'est pas du monde qui se couche de bonne heure, là, ben au Turbo Fest. Puis là, je tiens à vous dire que j'ai gagné ma première compétition à vie de turbo. Donc, j'avais gagné l'endurance à 2 diabolos l'an dernier. Alors, petite tape dans le dos.
Bravo!
Ouais.
Yes!
Je vais essayer de garder ma médaille encore pour 2026.
C'est ça, parce que c'est quel genre de compétition, justement, on peut être témoin là, lors de la compétition du Turbo Fest? C'est à 14h, c'est le samedi 3 janvier.
Oui, donc c'est dans la salle principale. On a des compétitions d'équilibre sur le nez. Donc, c'est de l'endurance puis des trucs tout en gardant un objet sur son nez puis en allant se coucher par terre, se lever, faire le fuck, whatever. Puis ensuite, on a jonglerie de balles, endurance à 5 balles, endurance à 7 balles, 3 diabolos, le nombre, puis du passing aussi. Donc, c'est toutes des... Puis on a aussi une catégorie qui est comme le meilleur truc qu'on peut penser, puis les gens, ils se font éliminer ensuite. C'est comme un vote.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment en mode compétition. Endurance.
Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment l'aspect sportif qui est mis de l'avant.
Puis tout à l'heure, tu nous as parlé que votre invité spéciale a donné des ateliers. Il y a des ateliers qui ont lieu justement le dimanche à 11h avec les invités spéciaux justement du Turbo Fest.
Ah oui, oui, c'est ça. Donc, Joe Fisher va présenter un atelier donc sur de sa création. On va être là pour écouter c'est quoi qu'il y a à nous partager. Tu sais, pour se rendre à un niveau aussi avancé, les gens, ils développent leur propre technique, puis c'est le moment où est-ce qu'on prend le temps de les écouter puis de prendre des notes.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment intéressant d'avoir cet événement-là pour les élèves de l'École de cirque de Québec, parce qu'ils se retrouvent à côtoyer les meilleurs au monde, puis à avoir des sources d'inspiration qui viennent à eux.
Ouais, ben c'est vraiment inspirant d'avoir un festival comme le Turbo Fest où justement la jonglerie est mise de l'avant, puis où les gens peuvent avoir de la représentativité de ce qu'ils aspirent à faire justement comme artistes de cirque. Là. C'est
ouais,
vraiment précieux.
Puis en tout cas, en jonglerie, on apprend beaucoup en collégialité. Puis c'est vraiment une des formes de co-apprentissage qui est véhiculée par le festival. Donc, d'échanger des trucs. Puis les gens, même les débutants, sont bienvenus de venir au festival parce que vraiment, tout le monde peut apprendre. Puis les gens sont ouverts à échanger puis à offrir de la formation à qui que ce soit. Puis il va y avoir des ateliers tous les jours pour les débutants. Alors, si vous avez jamais jonglé 3 balles puis que vous avez envie d'essayer, ben c'est le temps de venir.
C'est un moment vraiment d'échange, de partage, de création de liens aussi, puis d'établir justement des connexions là, dans notre communauté. Là, dans votre
oui,
communauté.
Le mot communauté est vraiment important pour le Turbo Fest parce que c'est la communauté des artistes de cirque qui se retrouvent puis qui se... Tu sais, quand on est marginal, quand on est un artiste, c'est pas toujours évident de... Mais quand on se retrouve dans notre communauté puis qu'on voit qu'on n'est pas tout seul à travailler puis à bosser fort 100%. De notre bord, on se retrouve à... C'est tellement nourrissant.
Ouais, c'est sûr et certain. Puis justement, tu sais, comme tu l'as dit plus tôt, le Turbo Fest est maintenant majeur, a 18 ans, est un adulte. Comment justement tu te sens de voir justement cette espace-là que vous avez co-créé, toi puis les autres membres, justement, de Turbo 418, puis de voir ça se continuer au fil des années, puis d'attirer justement l'attention puis l'intérêt justement d'un public plus large aussi.
Ah ben c'est une grande fierté d'avoir su créer cet événement-là et qu'il se perdure au fil du temps, puis de voir l'intérêt des jeunes qui s'impliquent dans l'événement, puis qui continuent, puis d'avoir un groupe de bénévoles, puis d'une équipe de production aussi dynamique, puis impliquée. Moi, ça me fait chaud au cœur.
Puis quand je regardais un peu votre site web, je voyais que c'était un événement qui était quand même majoritairement, c'est pas 100% autofinancé.
Oui, absolument. C'est un événement qui est autofinancé. Donc, le coût des passes fait que l'événement existe. Puis c'est tout du jus de bras bénévole pour la création de cet événement-là.
Et puis pendant 10... Pour vrai, bravo, parce que 18 ans de temps à faire un événement autogéré, autofinancé, DIY, je trouve ça. En tout cas, moi, personnellement, ça m'inspire grandement, là, parce que on voit qu'on n'a pas besoin, justement, d'avoir c'est ça, juste avec nos moyens puis avec des gens qui donnent leur temps, on est capable d'arriver à des grandes choses. Là.
C'est ça, puis une équipe de 50 bénévoles tout au long des 4 journées de festival qui s'impliquent pour aider à la cantine, à la vente des billets, aux commandites, à tous les aspects. C'est vraiment super.
Et là, les billets sont encore en vente. On vous rappelle que le Turbo Fest 2026, faut pas que je me trompe, ça a lieu du 2 au 5 janvier 2026. On peut acheter directement les billets sur votre site Turbo 418.
Offrir le turbo en cadeau de Noël.
T'sais,
quoi de mieux?
C'est une belle
offrir
expérience,
la culture en cadeau. Puis vous pouvez acheter les billets sur turbo418.com et venir directement sur place à l'école de cirque du 2 au 5 janvier ou encore à la salle Sylvain Lelièvre, donc pour venir profiter de cet événement unique au Canada.
Au Canada. Puis c'est en plus, c'est ici, dans la belle ville de Québec, dans le quartier Limoilou. Vraiment, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Bravo pour vrai pour cette 18e année de passion puis de faire rayonner là, à l'international l'univers, le sport, l'art, qu'est la jonglerie. Merci grandement, Valérie. C'est toujours un plaisir de te recevoir à Chérie J'arrive pour clore l'année.
Ah ben merci Noémie.
Puis qu'est-ce que peut-être pour ceux et celles qui sont jamais encore allés au Turbo Fest, qu'est-ce que tu dirais aux gens justement pour les inviter, les convaincre de venir voir le Turbo Fest, d'y participer?
Ben moi je vous dis, venez découvrir ce lieu incroyable, habité par cette énergie explosive qu'est le Turbo Fest. Donc, c'est juste trop beau puis surprenant. Alors, je vous invite à venir vous tremper dans le vif de la jonglerie.
Merci grandement à toi. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que le Turbo Fest a lieu. Hey, puis on n'a pas parlé de la thématique bingo.
Eh oui.
J'ai oublié, parce que je viens de voir ça en gros sur
Turbo Bingo cette année. Hey, on va avoir nos cartes pis tout.
C'est ça, là.
Ça va être drôle.
Il va y avoir des cartes de bingo, là. On peut s'attendre à ça, là.
Ouais, mais des cartes de bingo de jongleur.
Oh! J'aime ça, ça laisse un petit suspense, là.
Ouais. Préparez-vous au défi.
Au défi bingo, Turbo Bingo. J'ai très hâte. Merci grandement à toi.
Merci, Noémie.
Puis, c'est ça. Bon Turbo Fest. Je vous rappelle, vous pouvez aller directement sur le turbo418.com pour voir l'ensemble de la programmation. Achetez vos billets et même faire un don spontané au Turbo Fest pour soutenir le Turbo 418.
Merci.
Alors, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on va parler théâtre. On va parler avec Margot Ganassa, votre chroniqueuse de théâtre. Et on va parler de nos coups de cœur théâtral de l'année 2025.
C'est au coin extérieur, le tir.
La marque est prête, il est
prêt! C'est terminé! Les Remparts remportent la Coupe Memorial!
Les Huskies sont domptés
franchise 94.3, la radio des champions à Québec.
L'art des histoires, une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Salut, ici Alex Bergeron et je vous présente le deuxième service du Réchaud tous les samedis et dimanches dès 11h. Le deuxième service, c'est l'actualité de la semaine commentée à ma manière, que ce soit en politique ou en critique de film à l'affiche. Je vous présente tout ce qui a retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous sur mon Réchaud. La saison 8 du deuxième service du Réchaud, c'est les samedis et dimanches dès 11h sur les ondes de Cheese 94.3.
Et si la musique était une machine à remonter le temps? À chaque épisode, Histoire en stéréotype embarque dans une année précise. Les styles qui meurent, les sons qui explosent, les renaissances auxquelles on s'attend pas. Ici, l'histoire rencontre la musique et la musique rencontre l'histoire. Histoire en stéréo, un samedi sur deux, 19h30, sur les ondes de Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Premier acte et la Vierge folle présente. Peter Pan de poche. Que vous ayez 7 ou 77 ans, venez vous réchauffer dans les voûtes de la Maison Chevalier, vous servir dans notre irrésistible bar à dessert et apprendre à voler avec le garçon qui ne voulait pas grandir. Un conte musical drôle et enchanteur conçu pour toute la famille. Du 20 au 31 décembre au cœur du Petit Champlain. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
La CADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. La CADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est le but!
Ce jeudi 18 décembre, les Remparts de Québec accueillent le Drakkar de Bécomo à 19h sur nos ondes. Rejoignez Rick Loutier pour l'avant-match dès 18h45. Remparts Drakkar, ce jeudi à 19h sur les ondes de Cheese 94.3.
No. To put it candidly, we all hope for the best. But maybe could that be just a little bit phony? Don't try to flatter me. Don't tell me you're impressed. I know what you're here for, the backstage access. I sense discomfort. Try to keep your cool. Did my innocence make you feel vulnerable? Don't worry about me. Don't display your regrets. Find satisfaction in the heavy awkwardness. All these people, all these sounds.
Sexy Clown de Marie Davidson. Marie Davidson qui a sorti un super album cette année qui s'appelle City of Clown, qui a paru le 28 février 2025, qui a fait partie là, de la liste Polaris aux côtés de Journal d'un loup-garou de Lou Adrian Cassidy. Mais là, on parlera pas de musique, on va parler théâtre avec votre chroniqueuse Margot Galassa. Salut Margot!
Salut!
Très heureuse de te retrouver, mais cette fois-ci à l'autre bout du fil pour parler de nos coups de cœur théâtrales de l'année 2025. Parce que quand même, moi, je suis quand même assez fière de nous et surtout de toi parce qu'on a vu la majorité des pièces qui se sont passées
non,
à Québec.
On n'était pas bon avec l'aborder quand même.
On a moins été à l'aborder, ça c'est vrai. Mais on a quand même couvert une couple de pièces en 2025 quand même.
Oui, ben oui, quand même beaucoup.
C'est sûr que moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps au premier acte cette année, pour cette année 2025. J'ai quand même eu l'occasion d'aller à l'aborder une fois et au Périscope une autre fois. Puis, ben, j'avais peut-être envie de parler, qu'on parle ensemble justement de nos coups de cœur de l'année 2025.
Oui, ben, est-ce que tu veux commencer?
Oui. Ben, je peux commencer. Moi, en fait, parce que là, je regardais là, toutes les pièces que j'avais vues cette année. Et je regardais ça, puis j'étais comme, aïe, il y a beaucoup de pièces qui m'ont marqué. Tu sais, des fois, il faut comme te retourner dans tes archives, puis faire, OK, c'est quoi déjà que j'ai vu? Mais là, cette année, je me suis rendu compte que, ben, j'ai pas eu tant besoin de faire ça parce qu'il y a beaucoup de pièces qui m'ont marqué. Puis une de ses pièces, c'est Ici par hasard, une pièce de Caroline Fouché, qui a été basée d'un livre aussi qui porte également le même nom. Ici par hasard, ça a été la pièce qui a ouvert la saison 2025-2026 au Périscope. Ça a été présenté du 16 au 27 septembre 2025. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi, cette pièce-là. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai lu la pièce avant d'aller la voir au théâtre Périscope. Puis ça m'a fait, j'étais comme, ah, c'est une bonne idée de faire ça, mais au final, j'étais vraiment contente d'avoir eu l'occasion de la lire, puis par la suite de voir la pièce. Ici, par hasard, ça nous raconte l'histoire de frères et sœurs, Olga, Masha et André, qui se retrouvent au chalet familial pour disperser les cendres de leur sœur Irène. Irène qui s'est suicidée quelques années auparavant. Et c'est vraiment une pièce que j'ai beaucoup aimée parce que, ben, premièrement, la prestation des comédiens et comédiennes était vraiment, vraiment incroyable. Je pouvais ressentir cet aspect-là de fratrie, de sororité à travers la pièce. J'ai aussi beaucoup aimé les décors. Puis c'est une pièce qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Autant au début de la pièce, j'étais crampée, puis il y a beaucoup de moments où j'ai beaucoup ri, mais à la fin, j'ai quand même beaucoup pleuré, puis ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, cette pièce-là. Une pièce qui rappelle justement les gens les endeuillés, les gens qui sont là par la suite quand on perd un proche. Puis je trouve que c'est une pièce qui reflète bien la plume avec une touche un peu humoristique qu'on connaît à Caroline Fouché. Puis pour avoir lu beaucoup de sa poésie, presque toutes ses œuvres poétiques, j'étais vraiment contente de voir une de ses œuvres, une œuvre théâtrale de son cru sur scène. Puis ça m'a grandement marquée.
Yes! C'est dans des belles... Tu nommes tellement des belles pièces. On dirait que j'ai envie de rebondir parce que cette pièce-là que tu nommes, il y a l'affaire des cendres, là. Ça me fait beaucoup penser à la pièce la plus récente que j'ai vue qui m'a vraiment marquée. C'est « T'es un dessus dans le frigo » qui a été présentée à premier acte. Puis je sais pas si tu te souviens, parce que c'était quand même récent. C'était vraiment... Ça faisait du bien à voir. J'ai jamais entendu parler du deuil de cette façon-là.
Bien, on va se dire cette année, Québec, l'automne de théâtral à Québec... Québec est en deuil dans les théâtres pour l'automne 2025. Là, pour vrai, c'était assez étonnant comment c'était un thème qui a été abordé dans plusieurs pièces, autant comme dans les hamsters dans le frigo, One Night Only aussi, qui était présenté à premier acte, après Ici par hasard. Mais ouais, des hamsters dans le frigo, ça m'a aussi grandement marqué. J'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé aussi.
Mais si on va à l'inverse, avec La Naissance, il y avait en début d'année, là, en septembre, Délivrance, qui était présenté à la Borbée, de Rosalie Cournoyer et de Vénus Avello, la compagnie. Puis ça, par contre, ça aussi, c'est une histoire abracadabrante qu'on avait d'ailleurs vue l'année d'avant à premier acte,
ouais,
qui a été reprise donc cette année à l'aborder. Puis ça, c'est comme l'inverse. Je dirais que c'est quand même un deuil. C'est le deuil de avant d'être maman. Je sais pas comment expliquer.
Mm-hmm.
Le deuil de la partie avant d'avoir un enfant.
Ça, oui, c'est...
espèce de don de soi, pour moi, c'est un genre de deuil, là.
100%, puis on le ressentait très bien. Ben, j'ai pas vu la version que t'as vue à l'aborder, mais c'était une pièce vraiment touchante, puis qui m'avait grandement marquée aussi, là.
Mais la pièce qui m'a vraiment, je pense, le plus marquée, c'est une pièce jeunesse que je suis même pas sûre qu'on a couverte sur les ondes. Est-ce que j'ai quand même le droit de le partager?
Ben, j'espère, s'il vous plaît. On prend le temps de parler des choses qu'on a moins parlé.
C'est la saison passée, au Gros Bec, je suis allée voir Rose d'Isabelle Hubert, texte jeunesse, qui parle de dépression, entre autres. Puis moi, j'avais comme vu le livre avant, puis j'avais vraiment aimé ça. Ça m'avait comme touchée parce que j'écrivais un texte jeunesse, puis ça m'inspirait. Puis là, je suis allée le voir, puis c'est ça, ça m'avait profondément touchée, puis je m'étais dit, hey, je pense que j'aime vraiment ça, le théâtre jeunesse, à 27 ans, mettons. Ça me touche tout autant. Il y avait ça, puis il y avait aussi la pièce 15 façons de te retrouver. La pièce d'Anne-Marie Olivier au Trident.
OK, oui.
Qui a tourné pas mal tout l'été. Oui, c'est ça. 15 façons de te retrouver. Puis c'est aussi un processus de deuil. C'est vraiment l'année du deuil. Hein?
Ouais,
peut-être que toi puis moi, on aime se rapprocher de la mort.
Ouais, peut-être.
oui, c'est ça. C'était présenté au Trident. Et qui faisait son quatrième solo avec sa compagnie.
Moi, j'ai envie aussi de faire une mention spéciale. Tu sais, on parle là des théâtres avec un grand T, mais il y a aussi plein d'initiatives théâtrales ou de représentations théâtrales qu'on peut voir hors des théâtres qu'on connaît puis qu'on couvre en majorité ici à Chérie J'arrive. Mais moi, je veux vous parler d'une mise en lecture que j'ai vue au chantier, les chantiers 2025 qui avaient eu lieu du 22 mai au 7 juin. Et c'est la pièce, c'est un extrait, c'est un laboratoire, une lecture théâtrale de Les Justes, une lecture clandestine qui a été écrite par Lauriane Charbonneau. Et c'était juste l'expérience, là, si vous êtes jamais allé au chantier, moi, c'était la première fois que j'y allais, si ma mémoire est bonne. Et je suis allée voir justement la lecture clandestine de Les Justes. Et c'était vraiment cool parce que c'est juste la veille, on savait pas trop où on allait aller. Puis on avait vraiment un moment privilégié pour être témoin de cette mise en lecture-là, mais aussi parce que c'était un laboratoire. Puis en fait, c'est tout des laboratoires dans les chantiers. Le public était amené à donner un peu son avis, à donner des commentaires constructifs justement sur ce qu'on avait vu. Et ça, c'est une pièce vraiment là que j'ai hâte de voir à l'affiche dans les théâtres. Parce que j'y pense encore à cet extrait de Les Justes que j'ai vu. Puis pour vrai, j'espère l'avoir dans un théâtre ou du moins une représentation plus longue là, en 2026 ou peut-être en 2027.
On le souhaite pour la prochaine saison. On le souhaite le plus possible pour la prochaine saison.
Ouais, 100%.
J'ai pas vu ce chantier-là, mais j'ai vu d'autres extraits de travail de cette pièce-là. Puis oui, je confirme cette opinion que... Ça a l'air extrêmement bon. Moi aussi, j'ai envie de le voir sur scène, plus tôt que tard. Il y a aussi une autre pièce qui a joué à premier acte. On dirait qu'on parle beaucoup de premier acte, mais je pense qu'il y a eu des bonnes pièces à premier acte pour vrai.
100%, d'accord.
Il y a eu le vote stratégique.
Oh, mon Dieu, je suis tellement contente que tu en parles parce que quel spectacle. Ça, là, c'est un spectacle de théâtre comme j'en ai... J'avais jamais été témoin, en fait, de l'art du bouffon.
La bouffonnerie.
La bouffonnerie, ouais, c'est ça. J'avais jamais été témoin, justement, de cette forme d'art-là. Le vote stratégique avait été présenté du 15 avril au 26 avril 2025 au Théâtre Première Acte, comme tu l'as dit, une production de L'Hommerie. Et c'était une pièce de théâtre complètement éclatée où on nous mettait devant le trois bouffons, le Lacharru, Douchebag et Wannabe qui jouaient au jeu de la démocratie. Puis c'était en plein moment d'élection. Ça aurait pas pu être à un autre moment. Là. C'était vraiment, vraiment un beau hasard. Et
tu parlais des chantiers tantôt. Puis moi, j'avais vu le chantier de ce show-là l'année d'avant au chantier. Puis c'était vraiment bon, là. C'était vraiment bon. Je pense que le moment préféré du show, mon moment préféré du show, c'est le moment des boules de papier. C'était-tu juste dans le chantier ou c'était dans le vrai show, ça?
Non, y avait-tu? Je suis plus sûre.
Le moment des boules de papier. Ah, peut-être que c'était juste dans le chantier, mais il y avait un moment où ils nous disaient de nous lever pour faire quelque chose. Puis là, ceux qui en avaient qui se levaient, d'autres qui voulaient pas participer. Puis là, ils étaient comme, OK, ceux qui sont pas levés pour aller sur scène, vous êtes maintenant contre les gens qui sont
oui,
sur scène,
oui, oui,
qui ont planté
oui,
des balles de papier.
Oui, c'est vrai. Oui, puis je me rappelle de ce moment-là, on était ensemble en plus, c'est vrai, il y avait le moment des boules de papier. Et c'est ce que j'ai aimé, moi aussi, du vote stratégique, c'est que c'était une pièce qui était très participative. Là. On avait même une carte de bingo là, à l'accueil, puis là, on pouvait remplir notre carte de bingo. Il y avait tout ce moment-là.
C'était très ludique,
c'était très drôle, pour vrai, puis on... En fait, ce qui était intéressant avec cette pièce-là, c'est que
tout dépendant, la pièce était différente en fonction du vote de la majorité. Fait que si c'était Douchebag qui gagnait, eh bien, ben c'était la pièce était un peu différente, mm-hmm. Wannabe ou La Charrue. Fait que c'était comme une pièce qu'on pouvait aller découvrir, aller voir plusieurs fois pour voir les trois versions différentes là, qu'offrait le Théâtre de l'Homerie.
C'est fou que tu parles de ça parce que ben en ce moment on travaille justement avec Tête de l'Or, avec Nicolas Boulanger qui a mis en scène le show des Bouffons, puis on fait notre show de légumes, puis c'est aussi une tour à choix, puis on dirait que comme je vois des similitudes, c'était pas du tout fait exprès, mais je vois des similitudes dans le processus de création entre les Bouffons puis notre show de marionnettes.
Ben justement, on peut se projeter en 2026 ensemble, Margot, parce que ben là présentement t'es pas en studio parce que tu es en résidence là avec ta compagnie de création Tête de l'Or et votre projet, un cabaret légumes.
Exact. Ben là, on avait une résidence technique en fait c'est rare qu'on fait des résidences techniques avant de commencer les répétitions officielles. Honnêtement, c'est c'est pas courant de faire ça. Et là, avec Tête de l'Or, on aime bien avoir un processus de création qui fonctionne de manière itérative, c'est-à-dire on y va par couche, conception après conception, puis tout bouge un peu ensemble, puis éventuellement ça donne quelque chose. Mais il y a pas comme la hiérarchie des conceptions de qu'est-ce qui vient où est pas totalement respectée. Fait que là, il y avait des décors de carton avec des tests de patine un peu mélangés à genre des trois spots d'éclairage. C'est très, très ludique comme journée. Puis finalement, on s'est mis à faire des tests de marionnettes là-dedans. On a rajouté des bouts, on a dansé. Puis c'était vraiment, 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 vraiment super le fun. On a très, très hâte de replonger dans les répétitions officiellement en janvier pour présenter à la Charpente des Fauves la dernière semaine de février. On joue juste quatre soirs, hein, fait que c'est ça, faut comme se dépêcher, je pense, pour acheter des billets. Il n'y aura pas beaucoup de place.
C'est ça, vous êtes vous présentez le cabaret légumes en février. C'est ça, c'est du 25 au 28 février à la Charpente des Fauves.
Exact. Puis j'ai comme 0-10, c'était quoi? Est-ce que je prends le temps de faire un résumé?
Oui, s'il te plaît.
Ben, tantôt, je disais qu'il y avait des ressemblances avec le Bouffon. C'est qu'on est dans quelque chose de très comique. C'est théâtre avec marionnettes, mais pas que. Donc, c'est l'histoire de Hubert qui est cuisinier dans une pataterie. Éventuellement, il fait la rencontre des légumes de la cuisine qui s'animent. Et il y a plusieurs histoires. Puis c'est aussi une histoire à choix, en fait. Après les 20 premières minutes, il y a un choix qui est offert au public. Puis là, ça détermine le reste de l'histoire. Donc, plusieurs shows possibles. Puis, on s'est amusé là, aujourd'hui à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait rendre plus participatif le show. Fait qu'on en dira pas plus, mais c'est ça. Même pour ceux qui l'auront déjà vu, il y a beaucoup de changements qui vont opérer dans le prochain mois, dans les deux prochains mois. Ça va être vraiment fun. Puis, c'est surtout une histoire burlesque, des légumes qui fourrent dans une cuisine de restaurant.
Ouais, plus érotique, là. C'est quand même un cabaret très érotique, là.
Mm-hmm. C'est très sexueux.
Fait que pour un public averti, quand même.
Pour un public averti. Mmh.
Et ça, je vous rappelle, un cabaret légumes, c'est présenté à la fin du mois de février à la Charpente des Fauves. Et ça, ben, je pense qu'on peut prendre un moment, là, tu le fais souvent cette année, Margot, de prendre le temps de regarder la programmation de la Charpente des Fauves parce que c'est une programmation qui est super variée. C'est la Charpente des Fauves met en lumière les arts vivants et les arts multidisciplinaires. Il y a autant des sorties de résidence, des spectacles de théâtre, il y a vraiment plusieurs éléments, plusieurs types de performances d'art dont on peut être témoin.
Oui, puis ce qui est fou, c'est qu'on peut s'abonner à l'infolettre et choisir qu'est-ce qui nous intéresse dans la programmation de la Charpente des Fauves pour recevoir des rappels spécifiques. Mettons qu'on aime les sorties de résidence, OK, mais on n'aime pas du tout leur visuel. Bien, on peut décocher leur visuel puis pas recevoir toutes les semaines tout ce qui se passe. T'sais. Sinon, on peut aussi juste les suivre sur Facebook. Ils font tout le temps des beaux récaps là, de ce qui se passe chaque semaine au sein de leur mur.
Si je peux me permettre, il y a quand même des spectacles que j'ai hâte de voir ou des sorties de résidence que j'ai hâte de voir. Puis il y en a une que je vois se développer depuis plusieurs années quand même. Et c'est peut-être suffirait-il du mot lesbienne écrit quelque part. Un théâtre documentaire de Myriam Lenfetti, Gabriel Morin et Clara Vincino. J'ai vraiment hâte de continuer à voir ce projet-là se développer.
Avais-tu vu la lecture au Jamais lu l'an passé?
Oui, j'avais vu la mise en lecture au Jamais lu et j'avais également animé, là, ça fait quand même quelques années de ça déjà, mais j'avais animé une sortie de raison, une sortie de mentorat de première ovation à la Maison de la littérature. Mon Dieu, j'ai eu un bug. Et Gabriel Morin était déjà à ce moment-là dans des réflexions puis dans les débuts, justement, de ce projet-là qui s'appelle maintenant « Peut-être suffirait-il du mot lesbienne » écrit quelque part, un théâtre documentaire qui se questionne, justement, de la mémoire des bars lesbiens de la ville de Québec. Voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette sortie de résidence qui va avoir lieu le 10 janvier 2026 à Champagne-des-Fauves.
Moi aussi, j'ai très hâte de ça. J'ai très, très hâte de ça.
Y a-tu des pièces, toi, que t'es hâte, justement, peut-être, de voir en 2026, Margot?
Hey, on dirait que j'ai tellement une grosse semaine que j'ai pas pris le temps de regarder le reste du calendrier. Mais mettons que je l'ouvre là, devant moi à l'instant. Je m'étais fait un petit... Mettons que je l'ouvre à l'instant devant moi et que ça bug pas, mettons.
Mettons.
OK. Non, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Il y a plein de choses. Je sais que j'ai hâte de voir plein de choses parce que quand j'ai fait l'horaire de quelles choses je peux voir cette année... Ah, ben, il y a Bénévolat qui va jouer à la Bordée. J'aimerais vraiment pouvoir y aller. C'est un show qui a joué à Montréal à la Licorne dans la petite salle l'an passé. Puis j'avais été invitée à voir la générale et c'était vraiment bon. C'est une pièce. Il y a deux comédiens-comédiennes sur scène. Puis c'est comme fou dans ma tête un peu. C'est l'histoire d'une fille qui va faire du bénévolat dans une prison. Puis il fait comme de l'aide aux devoirs dans une prison. Puis là, c'est l'histoire de la relation entre ce gars-là en prison et elle. C'est vraiment super touchant, en fait.
Il y a une pièce aussi qui va être à Québec que tu as parlé cet automne, Margot, que tu avais vue à Montréal, justement, et c'est Méthadone Bertrand qui va être...
Ah, ben en fait, il y en a plusieurs que j'ai vues à Montréal qui viennent là cette année. Là. Il y a Méthadone Bertrand, excellent show, vraiment. Veux-tu en parler, excuse-moi, que tu es bien parti.
Ah ben tu l'as vu, fait que tu peux mieux en parler que moi, mais je sais que c'est qu'il y a quand même des artistes aussi de la ville de Québec qui sont impliqués dans ce show-là. Je pense à Laurie Foster qui fait les décors, les costumes, Émile Beauchemin qui est à l'éclairage. Puis
c'est complètement une équipe de Québec en fait.
C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, plus je regarde, plus je vois que ben oui, c'est cool.
C'est vraiment cool. Puis il y a ça qui s'en vient, puis il y a aussi. Pas assez près. Le show qui met en vedette le décor qui va être joué au Périscope. Je pense que c'est le prochain show au Périscope, en fait. C'est Magasin qui va jouer au Périscope. C'est un spectacle qui met en vedette le décor et les accessoires et l'éclairage au lieu des actrices. Donc, il y a une manipulatrice qui va venir animer le décor pendant un certain temps, puis donc on découvre le derrière et le devant d'un magasin qui se transforme au fil du temps. C'est vraiment super intéressant.
En tout cas, je sais pas pour ta part, Margot, mais moi, j'ai passé une magnifique année 2025 à tes côtés pour découvrir tous les talents du milieu théâtral qui se présentent ici dans la ville de Québec, dans nos théâtres et dans plein d'autres beaux lieux de diffusion. Il y a tellement de belles initiatives théâtrales ici à Québec, que ce soit pour la relève ou pour des artistes plus établis. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Et ben, peut-être pourquoi pas, chers auditeurs, auditrices, offrir une sortie de théâtre ou offrir la culture à Noël, je vous le rappellerai jamais assez.
Un good show, c'est vraiment fun. C'est une belle sortie à faire, soit en famille, soit en couple, soit juste avec son meilleur pote. En n'importe, même en groupe. En groupe, c'est encore plus le fun, en fait. Tu sais, acheter 5 billets, aller voir un show, prendre un petit verre après. meilleure soirée de ta vie, quoi.
Merci grandement, Margot. Merci de permettre au théâtre de rayonner ici à Chérie J'arrive, saison de Chiz 94.3 et de ben, couvrir tout ce qui se passe au niveau théâtral ici à Québec.
Merci, on se voit l'an prochain.
Oh oui, on se voit l'an prochain. Et pour notre part, chers auditeurs et auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on va parler avec votre chroniqueur littéraire, Alex Tremblay-Lamarche.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous aimez découvrir de nouvelles niches musicales et sortir de votre zone de confort? La Lézarde vous invite dans son repère sonore, une émission de radio dédiée aux découvertes musicales inusitées, rafraîchissantes et audacieuses. Votre hôte Kim Rose Marlowe vous attend les lundis à 11h avec un contenu éclectique et surprenant. La Lézarde, c'est sur Chiz 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, arts visuels et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Les nostalgiques se souviendront des compilations Punkorama qui mettent en lumière des groupes de punk, rock, ska, metal, emo, screamo et hardcore, et bien d'autres. Nous en inspirons tout en valorisant la scène locale. De plus, une semaine sur deux, notre programmation est entièrement féminine. Manquez pas ça, Punkorama sur les ondes de Chiz, les vendredis de 11h à midi.
T'as envie de t'éclater puis renforcer les liens de ton équipe, de vivre une expérience hors du commun? L'École du Rock Ampisson a la solution pour toi. Que ce soit entre collègues ou entre amis, venez participer à une activité de 2 ou 3 heures, durant laquelle vous ferez partie d'un véritable groupe de rock. Et on finit le tout avec une session d'enregistrement. Faites vite, nos calendriers se remplissent rapidement. Informations au ampisson.com.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois, du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Anita, tu voles en éclair, allongée dans la pelouse. Avec ta chemise rouge, Anita. Anita, tu reviendras pas. Tu traînes ta jupe de laine dans toutes les villes européennes, Anita. Anita, tu voles en éclat, allongée dans la pelouse. Avec ta chemise rouge, Anita. Tu traînes ta jupe de laine dans toutes les villes européennes, Anita. Tu voudrais que tout le monde t'aime. Tu voudrais plus jamais avoir de peine.
Tu pleures au cinéma. Tu voudrais que tout le monde
C'était Anita de Erika Hagen. Erika Hagen qui a sorti son premier album cette année, Pouvoir magique, sorti le 11 avril 2025. Une artiste de la ville de Québec que j'aime beaucoup. J'ai adoré son premier album. C'est quand même dans mes albums coup de cœur de l'année 2025. Et c'est pour ça que j'ai fait une place aujourd'hui. Ah chérie, l'année est finie. Sinon, un autre album que je veux absolument vous parler, c'est l'album Saya de Saya Gray. Un autre album qui a fait partie de la liste des prix Polaris, pardon, et la chanson Toss is Why I Don't Spring for Love. Quelle excellente chanson, puis j'ai envie qu'on l'écoute ensemble ici à Chérie. L'année est finie!
Indigo, where were you when I needed you most? Indigo, where were you when I needed you most? Needed you most. You love me differently. I loved you all the same.
Toss is Why de Saya Gray. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie. L'année est finie ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à l'autre bout du fil, c'est une première, votre chroniqueur de littérature, Alex Tremblay-Lamarche. Bonjour!
Bonjour Noémie.
Très heureuse de te retrouver à l'autre bout du fil cette semaine. Et tu vas nous partager des recommandations de livres à offrir à soi ou à nos proches.
Exact. Qui dit fin de l'année, dit temps pour lire à la maison, dit également occasion d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Et donc, quatre livres qui vont être agréables à lire dans le salon, au coin du feu ou à glisser sous le sapin, pardon.
Donc, avec quelle première œuvre littéraire tu commences cette chronique?
Ben, je t'amène à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec Femmes reporters du Québec, 1890-1945, une anthologie. C'est un ouvrage de Charlotte Biron, qui est professeure au département d'études littéraires de l'UQAM.
Et dans cette œuvre, on peut voir justement différentes femmes reporters qui ont marqué justement l'histoire.
Oui, ben on pense à des reporters comme Robertine Barry, qui était surnommée Françoise, Eva Circé-Côté, Anne-Marie Gleason, mais aussi des femmes qu'on connaît moins comme reporters, comme Gabrielle Roy, Eva Sénécal, Simone Routier, qui sont des grandes romancières, Germaine Guévremont aussi, mais qui ont également tâté effectivement de la plume comme journaliste. Et ben on a une introduction au début de Charlotte Biron qui contextualise tous ces reportages, parce qu'au final, ben c'est vraiment un ouvrage dans lequel on a des reportages qui datent fin 19e, première moitié du 20e, et c'est assez intéressant de voir de quoi ces femmes-là parlent.
Puis justement, c'est quoi les différents sujets que ces femmes abordaient là, entre 1890 et 1945?
Ben, elle parle beaucoup de voyages et elle bouge beaucoup. Et ça, c'est quelque chose, bon, qui m'a surpris parce que souvent, quand on pense là aux pages féminines des journaux à l'époque, ben ce qu'on se dit, c'est que, bon, c'est des choses qui sont très, très adressées aux femmes. C'est comme ça que les femmes rentrent dans le milieu littéraire dans un premier temps. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que elles se promènent, elles voyagent et elles rendent compte de leur voyage. Anne-Marie Gleason, par exemple, s'en va faire un récit de voyage au lac Saint-Jean 1901, qui est tout à fait intéressant. Même chose avec Cécile Laberge, qui en 1904 va se rendre à l'exposition de Saint-Louis aux États-Unis. Puis bon, ben, on pourrait effectivement continuer comme ça avec d'autres reportages là de femmes qui se ramassent effectivement dans différentes expositions, dans différents contextes, notamment l'exposition là, de Saint-Louis à laquelle Antoinette Gérin-Lajoie va également en 1904. Et donc, on voit que elles ont beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on pourrait le penser, qu'elles ont de la gentilité et qu'elles pondent des textes qui sont à la fois intéressants sur le plan historique et sur le plan littéraire.
Et est-ce qu'on a un peu de détails en lien avec justement la recherche pour retrouver justement ces différentes, ces 14 femmes reporters desquelles on discute dans le livre, parce que tu l'as nommé, je pense à Robertine Barry qui utilisait justement un pseudonyme. C'était quand même une pratique là, courante dans le milieu littéraire, entre autres.
Oui, c'est assez intéressant effectivement de voir ces femmes-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que il y a vraiment un travail qui a été fait par Charlotte Biron pour être capable de les identifier, de les contextualiser. Donc il y a tout un travail qui est fait qui dans l'introduction, mais c'est ça, tu sais, je vous dirais, elle parle entre autres des plus connues, mais aussi de certaines qui sont moins connues, et fort heureusement, on a assisté à des décennies de recherches en histoire des femmes qui nous permettent de les identifier et de les connaître.
Définitivement, je trouve que c'est un livre qui peut, pas juste un livre, une anthologie quand même, qui permet justement d'en savoir plus sur les femmes, des femmes de lettres qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, justement, comme tu l'as nommé, de mettre de l'avant aussi des reporters qui parlaient peut-être des luttes féministes ou juste par leur présence en faisaient partie également.
Oui, puis ben c'est ça, ce qu'on se rend compte vraiment, c'est que ces femmes-là, ben elles vont jouer un rôle, c'est ça, assez important à l'époque. Elles permettent aux lecteurs d'élargir leurs horizons. Elles se ramassent dans l'exposition de Saint-Louis, en rendent compte, et donc c'est beaucoup plus surprenant, c'est ça qu'on pourrait le penser, de voir toute cette ce parcours qu'elles font un peu partout pour être capables de parler de ce qui se passe autour.
Ok, Femmes reporters du Québec, 1890 à 1945, publié chez Boréal. Puis c'est quand même un ouvrage qui me semble, parce que je vois 264 pages, c'est un petit moyen ouvrage. Est-ce qu'il y a un peu de photos d'archives dans l'anthologie?
On en a quelques-unes, mais pas beaucoup. On a justement quelques reproductions là, des articles. Il y en a certains que, bon, ça a été publié dans la revue Moderne. Donc là, ben, on voit par exemple la tête de l'autrice avec, bon, quelques images qui illustrent. Mais je vous dirais, c'est vraiment un petit bouquin qui se glisse bien dans un bon Noël parce que, bon, on est dans un format compact. Et donc, ben, ça permet justement de traîner facilement en voyage la chose.
Et sinon, quel est le deuxième ouvrage que tu souhaites nous présenter aujourd'hui?
La vengeance des mal-aimés, trois drames oubliés, c'est de Raymond Ouimette chez Septentrion. Raymond Ouimette, peut-être petite mise en contexte, c'est un ancien journaliste qui a été à Radio-Canada, chroniqueur en histoire pendant plusieurs années, a également été journaliste au droit. C'est une figure assez connue dans l'Outaouais. Il a été conseiller municipal justement dans cette région-là pendant longtemps. Et c'est quelqu'un qui a une grande habileté à parler d'histoire judiciaire. Elle a publié justement notamment l'affaire des crucifiés chez Septentrion et Tuxedo Kid, la beauté du diable également chez Septentrion. Et donc c'est des ouvrages en histoire qui avaient eu beaucoup de succès parce que il sait effectivement conter des histoires de manière assez habile. Et donc, il nous livre ici trois histoires nouvelles du true crime. Et ça fonctionne.
Et dans la vengeance des mal-aimés, trois drames oubliés, quels sont ces trois drames que nous avons oubliés, justement?
Ben, le premier, on est en 1902, à Saint-Eustache, donc dans les Laurentides. Et on a un agriculteur du nom de Théophile Bélanger qui ne se supporte pas de voir que son rôle de mari, de père de famille est occulté par son beau-frère manipulateur et qui va justement, se ramasser dans une sombre affaire. Ensuite, en 1935, on est dans la région de l'Outaouais, à l'île aux Allumettes, donc dans la région de Pontiac. Il va y avoir un drame qui va avoir lieu. En fait, il va ouvrir le feu. En fait, c'est un homme du nom de Michael Bradley qui va ouvrir le feu après une dispute familiale. Puis, bon, il va avoir cinq morts. Donc, c'est ça, une histoire avec justement une enquête du coroner qui le suit. Puis, bon, on voit qu'il y a des histoires de courage, il y a effectivement des drames. Donc, puis là, bon, on essaye de trouver c'est quoi le mobile du crime, puis après on se ramasse dans le procès. Donc là, on voit vraiment les arguments des avocats et comment est-ce qu'on essaye de s'en faire pour s'en sortir. Est-ce qu'il va être condamné à mort? Est-ce qu'il sera pas condamné à mort? Est-ce qu'on devrait continuer à condamner des gens à mort? On est en 1935, la peine de mort va être abolie quelques décennies plus tard, mais déjà on commence à en parler. Donc, une histoire assez intéressante. Et la dernière histoire, on est en 1934, Rosario Bilodeau, qui est un facteur célibataire qui vit à Québec, va tuer six personnes dans un accès de paranoïa. Et c'est ça, il va vraiment faire des choses un petit peu étranges, là. C'est vraiment quelqu'un qui a probablement des enjeux un petit peu de santé mentale et qui va effectivement tuer des gens. Et là, encore une fois, on se ramasse dans le procès. Dans un premier temps, bon, il va avoir le bénéfice du doute qui va profiter à l'accusé. Puis, ben, le jugement va être contesté, mais finalement, Rosario Bilodeau va quand même, malgré tout, être pendu en raison des crimes qu'il a faits.
Puis, est-ce que dans la vengeance des mal-aimés, trois drames oubliés, est-ce que tu as vu, justement, y a-tu des facteurs qui unit peut-être ces trois personnes-là, bon, ces trois hommes, là, naturellement, mais y a-tu peut-être d'autres choses qui les unit puis qui fait en sorte que c'est ces trois individus-là qu'on parle dans La vengeance des mal-aimés?
Mais je dirais, c'est vraiment l'impression que c'est trois bonnes histoires, ces trois drames qui ont fait couler beaucoup d'encre dans leur temps, qui ont été abondamment couverts dans les journaux, mais qui dans les trois cas sont tombés dans l'oubli complètement par la suite. Et ben, c'est le talent de Raymond Ouimette, c'est vraiment d'être capable de sortir des histoires qui à une certaine époque ont vraiment fait la une et étaient dans les manchettes, mais qui, bon, par la suite, en sont venus être complètement oubliés.
Ah, puis aussi concernant le parcours justement de Raymond Ouimet, de l'auteur, il doit avoir là, tout cet aspect là, de recherche, puis cet aspect aussi là, de contexte historique qui doit être mis quand même au cœur des histoires.
Oui, tout à fait. Puis ben, autre point commun entre les trois, ben dans les trois cas, ils vont être condamnés à la peine de mort. Donc, ça nous rappelle effectivement que le système de justice a beaucoup évolué depuis. Et ce qui est intéressant, justement, c'est dans certains cas, ben, on remet en question la peine de mort dans ce contexte-là.
La vengeance des mal-aimés, trois drames oubliés de Raymond Ouimet, publié chez Septentrion. Un petit ouvrage aussi également là, qui se lit bien dans le temps des fêtes, justement.
Oui, on est effectivement dans quelque chose qui fait quoi? À peu près là, 170 pages. Donc, c'est ce petit format. Donc, encore une fois, ça se glisse bien dans un bon Noël.
Et si on continue avec notre prochain ouvrage, Alex?
Une biographie. La biographie de Dany Turcotte. Ça s'appelle Dany Turcotte et fils. Dany Turcotte, mon histoire. Et donc, ben, c'est simple. En fait, c'est le célèbre humoriste et ancien animateur à Tout le monde en parle qui nous offre une biographie.
Et de quoi? Est-ce qu'on apprend des choses nouvelles, justement, sur cette personne? Est-ce que c'est vraiment un peu une autobiographie qui retrace, justement, sa vie?
Ben, moi, je dirais que ce que j'y ai appris, c'est surtout les éléments sur son enfance. Parce que, bon, on connaît bien le personnage public qui a été humoriste avec le duo Lévesque et Turcotte. Puis on connaît son rôle de fou du roi là, de l'émission Tout le monde en parle, qui s'est malheureusement fini de manière un peu dommage. Puis bon, ben, on se souvient aussi de lui comme étant l'animateur de La Petite Séduction. Hein. Ça a quand même duré de 2005 à 2017. Donc, c'est tranquillement devenu une figure publique assez appréciée des gens. Mais tout l'aspect sur son enfance, sur sa jeunesse, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaissait moins. Or, ben, en plongeant dans l'ouvrage, on se rend compte qu'il a grandi à Jonquière, donc au Saguenay, dans une famille qui n'était pas unie. Ses parents vont divorcer là, assez rapidement. Son père est alcoolique. Son entreprise va faire faillite. En fait, l'entreprise s'appelait Des Turcotte et Fils. Donc, je pense que le titre de l'ouvrage est un clin d'œil à l'entreprise de son père, mais aussi effectivement au rapport avec son père. Et donc, tout cet aspect-là, là, sur ses jeunes années à Jonquière, sur les rapports familiaux difficiles, sont assez intéressantes et nous permettent là, de mieux comprendre le personnage tel qu'il est devenu aujourd'hui.
Puis, est-ce qu'on revient justement sur... tu sais, on en apprend sur son histoire, mais est-ce qu'on en apprend un peu plus sur comme les raisons ou le après, peut-être, tout le monde en parle, tu sais, que ça fait quand même pas si longtemps, c'était 2021 que
ouais, quelque chose comme ça,
suite
en fait,
à
2021. C'est exact. Oui, il revient effectivement sur ce qu'il appelle les deuils à vivre. Donc, autant bon les beaux mandats qu'il a eu dans sa carrière, comme La Petite Séduction, Tout le monde en parle, qui, bon, se sont terminés à un certain moment. Et comment est-ce qu'il a été capable de passer par-dessus ça, les défis que ça représentait pour lui. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il revient sur ses histoires d'amour, ses histoires de cœur. Donc, c'est toujours intéressant de voir un homme gay qui parle ouvertement de sa relation amoureuse.
Ouais.
Une relation amoureuse, justement, qui a été critiquée à une certaine époque parce qu'il sortait avec un homme beaucoup plus jeune. Hein. Mais c'est ça. Puis de voir les relations qui passe en fait, tu sais, notamment sa relation avec son amoureux Robert qui est en Écosse, qui vient de Nouvelle-Écosse et qui a duré quand même cette année et sur laquelle il livre effectivement quelques informations. Donc c'est à la fois effectivement l'homme public mais aussi l'homme privé qu'on découvre dans cet ouvrage-là.
Des Turcotte et fils, Dany Turcotte, mon histoire, publié chez les éditions de La Presse.
C'est exact. Puis, c'est chouette aussi, on a un cahier couleur de photos. Donc, ça permet de le voir dans ses jeunes années, puis bon, aussi avec d'autres personnalités.
Et pour le dernier ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, tu nous parles de Wikipédia.
Oui. le mouvement Wikimédia au Canada, communauté, institution et culture libre. C'est un collectif sous la direction de Jean-Michel Lapointe et Marie Desmartel.
Puis c'est, je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles aujourd'hui parce que justement, je lisais ce matin sur Wikipédia, puis peut-être même comment cette plateforme-là est en péril présentement.
Oui, ben on le sait, hein, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de gens qui se sont emparés de cette plateforme-là, des fois en disant du mal à des personnes qu'ils n'aiment pas. Donc c'est facile, effectivement, mettons aujourd'hui d'aller dire des choses négatives sur Pablo Rodriguez ou au contraire d'en dire des positives et bon, de tromper un petit peu la vérité. Or, effectivement, il y a tout un travail de modération qui est faite sur Wikipédia afin de s'assurer que les choses soient bonnes. Mais c'est ça à la base, mais on revient dans cet ouvrage-là sur ce que c'est. Ben, c'est vraiment ben une volonté de permettre aux gens de contribuer collectivement au savoir. Et ben ça donne toutes sortes de belles initiatives. Bon, moi, c'est ça, comme tu le sais, je suis dans le milieu muséal, donc le texte de Nathalie Thibault m'a particulièrement intéressé parce que c'est un collectif. Donc, on voit, bon, différentes utilisations de Wikipédia, Wikimédia, notamment, bon, c'est ça, sur la question des gouvernements ouverts, une contribution de Miguel Tremblay, sur la question des protocoles de pluralisation, une contribution de Nathalie Cazemajor, sur la question du festival Folk, Marie Posa, une contribution de Stacy Alison Cassin et, bon, comme je mentionnais, dans le milieu muséal, une contribution de Nathalie Thibault, qui travaille au Musée national des beaux-arts du Québec, donc à Québec, et qui se demandait ben comment est-ce qu'on pourrait diffuser davantage les œuvres du Musée national des beaux-arts du Québec, toutes ces œuvres d'art, donc est-ce qu'il y aurait moyen de les mettre sur Wikipédia, de mettre de l'information sur elles sur Wikipédia? Et donc, ben, elle nous parle de trois chantiers qui ont été lancés par le Musée national des beaux-arts pour diffuser davantage leur collection.
Je trouve ça intéressant, justement, que l'ouvrage soit un ouvrage collectif. Je trouve que c'est tout à propos, justement, en lien avec comment ben, Wikimédia et Wikipédia également fonctionnent, parce que c'est aussi ça, c'est quand même un espace, justement, où plusieurs personnes rajoutent de l'information. Fait que je trouve que le fait que le livre soit fait de cette manière-là aussi, je trouve ça super, super intéressant.
Effectivement. Puis, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est publié aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Parcours numérique. Et donc, ça veut dire que il y a une édition augmentée qui est gratuitement accessible en ligne à Parcours numérique tradeunionpume.ca. Et donc, oui, on peut acheter le livre et en profiter auprès d'un feu, mais on peut aussi profiter d'une version augmentée. Et donc, ben, c'est probablement, entre autres, par là que passe l'avenir de l'édition grâce à ces initiatives-là qui permettent d'avoir un livre, mais un livre avec un plus quand on est c'est ça, quand on va en ligne.
Merci grandement, Alex. On a parlé de ce dernier ouvrage qui s'appelle Le mouvement Wikimédia au Canada, communauté, institution et culture libre, sous la direction de Jean-Michel Lapointe et Marie Desmartel. Est-ce que tu peux nous redire en rafale tous les livres que tu nous as présentés aujourd'hui à Chérie, l'année finie?
Avec grand plaisir. Donc, on a parlé de Femmes reporters du Québec 1890-1945, une anthologie publiée par Charlotte Biron chez Boréal. On a ensuite parlé de La vengeance des mal-aimés, trois drames oubliés, un ouvrage de Raymond Ouimette chez Septentrion dans la collection Dossiers criminels. Ensuite, on a parlé de Des Turcotte et fils, une biographie de Danny Turcotte qui est le sous-titre Mon histoire, un ouvrage publié aux éditions de la presse sur cet humoriste. Et finalement, le mouvement Wikimédia au Canada, communauté, institution et culture libre, un ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal sous la direction de Jean-Michel Lapointe et Marie Desmartel.
Merci grandement, Alex, encore une fois, pour cette superbe année 2025 passée en ta compagnie. C'est toujours un plaisir de découvrir toutes sortes de livres, d'en apprendre plus aussi à tes côtés là, sur différents sujets, que ce soit historique, politique ou autre. Merci à toi, puis je te souhaite une belle année 2026. J'ai hâte de poursuivre cette aventure avec toi.
Un grand merci, on se retrouve l'année prochaine.
Et pour notre part, c'est ainsi, chers auditeurs, auditrices, qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. l'année est finie. Ça m'a fait un énorme plaisir, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à vos côtés pour votre retour à la maison, retour culturel pour vous faire découvrir des artistes de plein de milieux, que ce soit des artistes du milieu de la littérature, des arts visuels, de la musique en danse, arts multidisciplinaires. Et des films aussi, de l'humour. Bref, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir prendre le temps de parler avec mes chroniqueurs passionnés, mais aussi à tous les artistes que je reçois en studio, à qui je tends le micro. Merci à vous de votre confiance. C'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir ici à Chérie J'arrive sur les ondes de Schiste 94.3. Et je vous encourage à offrir la culture en cadeau cette année, que ce soit à Noël, que ce soit pour le jour de l'an, où toutes les occasions sont bonnes pour offrir la culture à vos proches. Une part